Audiolib présente Les nuits de Reykjavik d'Arnaldur Indridason, lu par Jean-Marc Delos. Chapitre 1. Les garçons tapotèrent l'anorak vert, qui tournoya à la surface de l'eau, puis décrivit un arc de cercle avant de couler. S'aidant de leur bâton, ils le firent remonter et furent saisis d'effroi. Ils vivaient dans le quartier de Vasaleiti et habitaient les immeubles bordant le boulevard Miklabrot jusqu'au terrain vague de Kringlumiri. La partie nord de ce périmètre était une friche envahie d'angéliques et de rumex à longues feuilles. La partie sud était quant à elle une tourbière, encore toute lacérée d'entailles, d'où les gens de Reykjavik avaient extrait des tonnes de tourbe pour se chauffer pendant la Grande Guerre. Le conflit mondial ayant entraîné une pénurie de combustible en Islande, on avait drainé le marais, tracé des chemins de terre et entrepris la plus importante extraction de tourbe de l'histoire. Cette activité avait occupé des centaines d'ouvriers qui extrayaient le combustible et le faisaient sécher avant de le livrer par tombereau en ville. À la fin de la guerre, avec la reprise des importations de charbon et de pétrole, on avait cessé de se chauffer à la tourbe. Les fosses, désormais emplies d'eau brunâtre, étaient restées en l'état pendant longtemps. Quand la ville s'était étendue vers l'est au cours des années 60 et 70, avec la construction des quartiers de Vasaleiti et de Storagerdi, ces anciennes tourbières étaient devenues le terrain de jeu des enfants. Ces derniers confectionnaient des radeaux, naviguaient sur les mares les plus vastes et faisaient du vélo sur les nombreuses pistes cyclables aménagées sur les collines alentour. Quand le froid de l'hiver arrivait, ces mares se prêtaient parfaitement à la pratique du patin à glace. Les trois garçons venaient de fabriquer un radeau tout neuf avec des planches glanées sur un chantier qu'ils avaient soigneusement cloué à deux poutres transversales et enveloppées de plastique isolant. Le plancher de l'embarcation était constitué de bois de coffrage. Ils se propulsaient grâce à de longs bâtons qu'ils enfonçaient dans l'eau opaque, jamais bien profonde. Ils portaient des bottes en caoutchouc pour garder les pieds au sec. Il y avait souvent des gamins qui tombaient et se retrouvaient trempés jusqu'aux os, grelottant, mais tremblant surtout à l'idée de rentrer chez eux comme des naufragés et de se faire gronder par leurs parents. Ils avaient avancé en douceur vers le boulevard Kringlumirarbrot, veillant à ne pas trop tanguer pour que l'eau ne vienne pas submerger leur embarcation et ne les fasse pas tomber dans la mare. C'était tout un art, semblable à celui du funambule, qui nécessitait à la fois adresse et esprit d'équipe, mais avant tout du sang-froid. S'ils s'installaient trop près des bords, ils risquaient de chavirer. Les trois copains avaient donc pris tout leur temps pour trouver le point d'équilibre avant de quitter la rive. La navigation se déroulait parfaitement. Satisfaits de ce nouveau radeau qui voguait joliment, ils avaient effectué quelques allers-retours sur la partie la plus profonde. La circulation ronronnait sur le boulevard Miklabrot, au nord de l'ancienne tourbière dont la limite sud était traversée par des canalisations d'eau chaude qui remontaient vers les grands réservoirs posés au sommet de la colline de Skulid. Ce lieu constituait pour eux un autre terrain de jeu où ils trouvaient parfois des petites balles dures de la taille d'un œuf. Ils s'étaient interrogés sur leur nature. Le père d'un des gamins leur avait dit que c'était des balles de golf, ajoutant que certains venaient sans doute pratiquer ce sport dans la zone déserte aux abords du pipeline. Cet endroit, baptisé Golfskalatjörn, entre la colline de Skulid et la tourbière de Kringlumiri, avait autrefois été le golfe de Reykjavik. Cela dit, ils doutaient que les balles que les gamins avaient trouvées datent de cette époque. Ils naviguaient à belle allure tout en parlant des balles qu'ils trouvaient régulièrement à côté du pipeline, quand un des côtés avait plongé sous la surface. Le radeau s'était soulevé, puis immobilisé. Ils n'avaient pas tardé à y remédier en se mettant de l'autre côté de l'embarcation, qui s'était peu à peu redressée tout en restant partiellement immergée. Ils ne voyaient pas l'objet qu'ils venaient de heurter. Ce n'était pas la première fois qu'ils